Chapitre 4. Marius Pluche entra en coup de vent dans la boutique. C'était un méridional, au visage réjoui et sanguin, au corps bedonnant monté sur de petites jambes tortues. Hé, Marius, on prend l'apéritif ? Prononça Bernard. Non, merci, camarade, répondit Pluche en décrochant sa clé du tableau. Je vais préparer le dîner. Il était chargé comme un bourri. Heureusement, il habitait le numéro 1 et l'escalier aboutissait à sa porte. « Ouf » fit-il. Il déballa ses provisions, des olives, un lapin, du lard, une salade et 2 litres de vin. Il soupesa le lapin. « Un beau morceau, monsieur Pluche, » dit-il, répétant la phrase du rôtisseur. « Lapin sauté ou lapin chasseur ?» Il réfléchit un instant, fit claquer ses doigts gonflés comme des saucisses, son geste favori qu'il accompagnait de coquin de sort. « Lapin sauté !» s'écria-t-il. Et pour se mettre en train, il se versa une bonne rasade. Son attirail était installé sur une étagère. La cocotte de fonte, les casseroles, la poêle à frire, la vaisselle, des bouteilles vides, 1 litre d'huile, un panier à salade empli d'ail. Pluche avait transformé la chambre en cuisine. Il tomba la veste, alluma le poêle et fit revenir le lapin. Il tordait le cou, humait l'odeur qui montait de la cocotte. Il aurait fallu du thym dans la sauce. « T'es là, il remplace tout !» s'écria Pluche. Il alla chercher le panier à salade. Elle aura le sourire à entendre, la bourgeoise. Il but encore un verre, croqua quelques olives. Le lapin mijotait, une bonne odeur parfumait la chambre. Pluche prit un livre qui traînait sur la table, un gros bouquin graisseux à moitié débroché. Il l'ouvrit, commença à lire, mais le relent du roux devenait incommodant, et il se leva pour faire un courant d'air. Quesnel, qui passait sur le palier, s'arrêta. « Ben, ça sent bon le frichti, vous n'êtes pas fatigué de cuisiner tout le temps ?»« Et que non pas, c'est de la ragouillasse ce que je fais au restaurant. Rentrez, vous allez voir ce que c'est dans la cuisine. » Il leva le couvercle de la cocotte. Quesnel renifla et fit claquer sa langue. « Vous lisez les recettes ?» demanda-t-il. « Non, c'est l'homme qui rit du père Hugo. Un précurseur, avez-vous lu l'année terrible ?» Pluche parlait politique comme les jeunes gens de leurs amours, intarissablement. « Moi, je suis syndicaliste, socialiste, commença-t-il. Je suis citoyenne de la terre, camarade soleil brillant pour tout le monde. » Quesnel s'esquiva et Pluche se replongea dans sa lecture. D'une main, il tournait son frigo, de l'autre les pages du livre. À côté de lui était posé un verre de vin. Il lisait tout haut, roulant les yeux, gonflant les joues, et sa voix soufflait comme le mistral. À 8 heures, le lapin était cuit, mais Berthe Pluche, serveuse dans un restaurant des boulevards, n'était pas de retour. Elle aura fait un extra, se disait-il. Et tout se manger. Tiens, mais je pourrais peut-être faire goûter de ma cuisine au patron. Il descendit. Patron, je vous apporte mon lapin sauté. Oh, oh, ça sent bon l'ail, dit le couvreur, vous nous gâtez. La bourgeoise n'est pas rentrée, et moi, je ne sais pas manger tout seul. Tandis que Louise achevait de mettre le couvert, Pluche posa la main sur l'épaule du patron. « Ma femme, c'est une camarade. Je lui dis, va de ton côté, je vais du mien. Comme ça, on ne se dispute jamais. » Il était le seul dans l'hôtel à ignorer qu'il était cocu. « Sacré Marius, dit le couvreur, allez, venez vous mettre à table. » La gibecière sous le bras, le petit Chardonnereau arrive de l'école. « Ta maman rentrera tard, dit Louise. Voilà sa clé. » Paul, gamin chétif, au visage terne et vieillot, remercie. « Il s'élance dans l'escalier, suivi de son ami Badour, qui lui court dans les jambes jusqu'au premier étage. Paul s'arrête devant la chambre de son grand frère. Gabriel, garçon boucher, habite là depuis son retour du service. Il frappe à la porte. Personne. La chambre de ses parents, une chambre à trois, la plus grande de l'hôtel, est au fond du couloir. Elle a 4 mètres sur 5. À droite, un petit réduit sert de cuisine. Paul aime la couleur du papier qui tapisse les murs, la fenêtre qui donne sur le quai. De là, en se penchant un peu, on aperçoit le poste vigie décoré d'un drapeau et l'écluse où attendent les péniches. La cuisine a une petite lucarne d'où l'on découvre un tas de cheminées et le lavoir de la rue Bichat. Mais pour voir les blanchisseuses qui tapent du battoir, Paul doit monter sur une chaise. Richard Donneau habite Paris depuis 2 ans. Ils ont logé à l'hôtel quai de la Râpée, puis au fond d'un passage, enfin à l'hôtel du Nord, le jour où Papa Chardonneret a trouvé une place de camionneur chez M. Latouche. Paul a 11 ans. Quand il a terminé ses devoirs, il descend jouer sur le quai. Il court derrière les voitures avec ses camarades ou regarde pêcher à la ligne. Mais ce n'est pas toujours fête. Sa mère, une femme de ménage, travaille dehors toute la journée et souvent, il doit faire les courses à sa place. Maman Chardonneret a laissé une liste de commissions sur la table. Paul la fourre dans sa poche, prend le filet et dégringole l'escalier. Il s'arrête devant la chope des singes, risque un œil ardent entre 2 rideaux pour voir jouer au billard, traverse la rue et musarde aux étalages. Tout lui fait envie. « Encore toi, mon petit, » dit le boulanger. Paul hoche la tête et tend son carnet. Maman Chardonneau achète partout à crédit. Rue de la Grange-aux-Belles, il tombe sur son frère, qui donne le bras à une dame. « Hé, Gabriel » crie-t-il. « Fous-moi le camp !» lui dit l'autre. Paul regagne l'hôtel, prend les litres de vin que le patron lui a servi, les glisse doucement dans son filet et quitte la boutique. Le corps ployé, les bras rompus par sa charge, il monte l'escalier en tapant des pieds à chaque marche. Une main légère lui frôle les cheveux. « Bonsoir, mon petit bonhomme, » dit Mademoiselle Raymonde, qui habite l'autre aile de la maison. Arrivé chez lui, Paul court à la fenêtre et le cœur battant colle au carreau son visage. Il voit l'ombre de Raymonde aller et venir dans sa chambre. Il s'accroche nerveusement au rideau. Soudain, une main s'abat sur son épaule. « Mais qu'est-ce que tu fous là ?» C'est Gabriel. Il aperçoit l'ombre de Raymonde. « Ah bon, je dirai à la mère à quoi tu passes ton temps. Allez, va faire la vaisselle. » Paul revient sournoisement à la fenêtre. Des questions lui brûlent les lèvres. Il regarde son frère avec des yeux brillants. Ben, « tu voudrais l'avoir en liquette, hein ?» demande Gabriel. Il se rengorge. « Oh, je la connais, Raymonde !»« Moi aussi, oh, tu sais pas ce que tu dis. Allez, serre-moi à boire, morveux !» Paul met le couvert. Gabriel boit à cheval sur une chaise, le corps tassé, l'air abruti. Un pas lourd se fait entendre, la porte s'ouvre. Jovial, titubant, un fouet à la main entre le père Chardonneret. « Bonsoir, papa, » dit Paul. Chardonneret l'écarte. « Verse-moi du rouge !» Il s'assied, passe la main sur ses moustaches mouillées, ôte sa veste qui sent l'écurie. « On casse la croûte ?» Tout à coup retentit la voix autoritaire de la mère Chardonneret. Gabriel va ouvrir. Chardonneret se lève. « On t'attendait, Margot !» Un grognement lui répond. La mère Chardonneret se débarrasse de son manteau. puis, le visage dur, la main levée, prêt à gifler. Le dîner est prêt, Paul. Paul risque un mensonge, mais sa mère va dans la cuisine. Viens donc voir ici, je t'avais dit d'acheter 3 beefsteaks, mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle lui flanque une taloche. Propre à rien. Elle bâcle le dîner, côtelette sur le plat, toujours le même ordinaire, et ils se mettent à table. Ils mangent sans prononcer une parole, leurs visages aux mâchoires remuantes penchés sur leur assiette. « Paul, descends acheter 1 litre !» commande la mère. Elle attend que son fils soit parti et sort un paquet de sa poche. « Regarde ça, le vieux » dit-elle en tendant une chemise de soie. « Je l'ai ramassé sous le lit de Madame Leclerc. » Une grimace crispe son visage osseux. « C'est-il pas malheureux de laisser traîner du linge comme ça ?»« Tu vas lui rendre ?» dit Chardonneau. « T'es fou, toi ! Gabriel, je n'ai pas raison de la garder, cette chemise. »« Et comment ?» répond le fils. « Les patrons !» Puis crache par terre avec mépris. Ils se regardent tous les trois, sans mot dire. La mère Chardonneau fourre le linge dans son caraco. « Bah, j'y trouverai toujours Brenda de la vendre à une femme de l'hôtel. » La pluie cinglait les vitres, le vent soufflait en rafale. Louise quitta sa place, souleva le brise-bise. Le quai était désert. « Bon, on verra pas un chat ce soir, » pensa-t-elle. Son mari sommeillait. Elle regarda Badou, couché en boule près du feu, et prit sa boîte à ouvrage. Brusquement, la porte s'ouvrit, et un homme entra dans la boutique. « Assez, Nono !» cria Louise. L'inconnu secoua son chapeau melon. « Quelle pluie !» dit-il. C'était un homme de 40 ans, peut-être, maigre, barbu, vêtu d'un long pardessus noir et d'un pantalon qui tombait sur ses chaussures. « Avez-vous une chambre à louer ?»« Oui, Émile, hé, Émile !» Le couvreur se réveilla. « Accompagne, monsieur, au numéro 3. »« Faut me dire votre nom avant. »« Monsieur Lade... une canne de Toul interrompit. « Ladevez !» acheva-t-il d'une voix sifflante. Il ramassa sa valise et suivit le couvreur. « Une belle chambre, sur le canal, il y a de l'air !» expliqua le couvreur. « Est-ce calme ?»« Jamais un bruit. À 10 heures, ici, tout le monde dort. C'est pas un hôtel à femmes. »« Oh, je dis pas ça pour vous. Si vous aviez quelqu'un d'attitré... » La devise eut un geste évasif. Le couvreur s'en alla. « Un homme bien !» dit-il à Louise qui hocha la tête. Le lendemain matin, quand la devise descendit, Louise examina son nouveau locataire. Un fantôme, une grande perche, squelettique et dégingandée, avec un visage hâve et des yeux fiévreux. Quelle odeur étrange il apportait. « On vous a entendu tousser hier soir, » dit-elle. « Ben, un peu de grippe, » répondit-il en s'asseyant près du poêle. Mais bientôt, pris d'une canne de toux, il secoua la tête, se courba comme s'il allait vomir ses poumons, et à plusieurs reprises, cracha méticuleusement dans son mouchoir. « Est-ce que je pourrais avoir un peu de tisane ? Vous devriez plutôt boire un grog, ça fait suer et après on est dégagé. » Non, 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 il s'étrangla, du tilleul. Louise lui fit une infusion. Elle le regarda boire. Un malade. À cette seule idée, un frisson lui passa dans le dos. La devise, comme s'il eût deviné sa pensée, lui jeta un coup d'œil soupçonneux et, se levant, regagna sa chambre. Il ne redescendit plus l'après-midi et ne parut pas les jours suivants. On l'entendait tousser. Les clients, étonnés, demandaient « Qu'est-ce que c'est que ce type du numéro 3 ?» À nouveau, répondait Louise. Elle faisait la grimace et restait pensive. Plusieurs fois par jour, elle montait à la devesse du bouillon et des tisanes. Il était couché, ses genoux pointaient sous les draps, un relent de pharmacie traînait dans la chambre. Il fallait aérer, retaper le lit, mettre de l'ordre sur la table. La devesse, les yeux au plafond, respirait péniblement. Son visage, ses mains étaient moites. Brusquement, il criait « Laissez-moi, madame le couvreur, je n'ai plus besoin de rien. » Un drôle de bonhomme. 2 semaines passèrent ainsi. Un matin, Louise suggéra « Vous devriez voir un spécialiste. »« Les médecins, je les connais, » déclara la devesse. Il eut un sourire désabusé. « Ben, je croyais guérir à Paris et oublier le reste. » Ses lèvres tremblaient. Soudain, une crise violente l'étouffa. Il fallut l'aider à se redresser et lui donner de la tisane. Quand ce fut fini, le moment des aveux était passé. La devesse intriguait les locataires. « Qu'est-ce qu'il est venu fabriquer à Paris, la patronne ?» Louise montrait le plafond. « Demandez-le-lui, moi j'ai jamais pu lui arracher un mot. » Les clients se taisaient. Enfin, Mimard grognait. « Il est en train de crever, ce bonhomme-là. » Pélican ajoutait. « C'est pas contagieux, au moins. » Louise secouait la tête. « Mais je le soigne bien, moi. » Soudain, on entendait l'abdesse qui râlait, qui crachait. Et sa toux traversait l'hôtel comme un mauvais vent d'automne. Quand Louise annonça le départ de la devesse, ce fut un soulagement général. Elle avait dû ruser et discourir, menacer presque, avant de le décider à entrer à l'hôpital Saint-Louis. « Laissez-nous vos bagages, vous n'allez pas rester longtemps là-bas. »« Pas longtemps. » Fille Louise fit 2 visites à son malade. À la 3e, le lit était vide. La devesse était morte dans la nuit. 15 jours plus tard, les Lecouvreurs virent entrer dans la boutique une femme à l'aspect rigide, important, au visage caché sous une voilette. « Permettez-moi de me présenter, Madame la devesse. » La voix était sèche, les gestes guindés. « Mon époux a habité ici. » « Vous avez conservé ces bagages ?» Louise répondit par un signe de tête. Elle prit une clé. « Je vais vous conduire dans sa chambre. »« Il a vécu dans ce taudis, » fit Madame la devesse, quand elles furent arrivées. « Un taudis, » riposta Louise, « un taudis. Ah, mais vous en avez des expressions. Allez, tenez, voilà les affaires de votre mari. » Madame la devesse ôta ses gants, sa voilette, posa un lorgnon sur son nez et commença un méticuleux inventaire. Elle prenait les objets un à un, les palpait, puis les rangeait dans sa valise avec une lueur de contentement au fond des yeux. « Parfait, » dit-elle lorsqu'elle eut fini. « Il y avait un parapluie, n'est-ce pas ? Un parapluie à manches d'argent niellé. » Louise leva les bras. Voyons, rappelez-vous, c'est important. Oh, moi, je ne l'ai jamais vu de parapluie. Vous m'étonnez, il ne peut être ailleurs qu'ici, cherchez voir. Il ne le quittait jamais, son parapluie. C'était un cadeau de mariage. Il l'aura oublié en chemin de fer. Oh, vous ne connaissez pas mon mari, madame. Elle eut un rire bref, offensant. Et d'une voix cinglante, on le lui a volé. Louise sentait la moutarde lui monter au nez. Devant cette femme, exigeante et dédaigneuse, elle pensait au malheureux convoi qu'elle avait suivi jusqu'au cimetière de Pantin. Elle ne put se retenir. Pêle-mêle, elle ramassa les bagages, en chargea Madame la devesse et la poussa dans l'escalier. Foutez-moi le camp ! Foutez-moi le camp ! Elle s'arrêta, bouleversée. En bas, Madame la devesse criait Si vous le retrouvez, son parapluie, écrivez-moi. » Delphine et Julie Pellevoisin vivaient à l'hôtel comme elles auraient vécu en province. Lentes, tatillonnes, soucieuses de l'avenir et craintives, devant les hasards, elles ne sortaient jamais. Leur chambre, fermée au bruit du dehors, était à leur image. Décor sans grâce, sans air, où naissaient et mouraient leurs songeries de vieilles filles. Delphine avait 36 ans, Julie 31. Elles se ressemblaient, disait Louise, comme deux sœurs jumelles, même traits, même chair fade, même yeux troubles. Mais sur la joue gauche de Delphine, une verrue piquée d'une touffe de poils, ses lèvres pincées lui donnaient une mine revêche, alors que le visage de Julie exprimait la douceur. Elle portait les mêmes robes, larges, tombantes, de nuances sombres, avec des dessous compliqués qui leur arrondissaient la taille, des corsages fermés, des gants de coton qui cachaient leurs mains sèches. Elle s'était faite une existence où l'imprévu ne pouvait trouver place. Levées à 6 heures, elles prenaient leur petit déjeuner, puis, une serviette sur les cheveux, elles nettoyaient la chambre avec un soin que Louise donnait en exemple à ses clients. Julie était corsetière. Elle partait pour son atelier. Delphine, qui faisait de la confection, s'installait près de la fenêtre et cousait jusqu'au déjeuner, qu'elle prenait seule car sa sœur emportait son manger. Le soir, Julie rapportait les provisions et Delphine préparait leur modeste dîner. Elles se mettaient à table, bien à l'aise, toutes deux, dans leur peignoir à ramages. Julie bavardait en mangeant, elle avait toujours quelque histoire d'atelier à raconter. Delphine, souvent d'une petite phrase sèche, la remettait à sa place. Elle se partageait le journal, qu'elle lisait de la première page aux annonces. Delphine commentait les faits divers et tranchait sur tout. Sa sœur approuvait d'un signe de tête, l'esprit ailleurs. Des portes claquaient, des jeunes gens criaient dans le couloir, interpellaient Fernande ou Raymonde. « Quelle racaille !» disait Delphine. Elle se levait et Julie l'entendait marmonner quelque chose sur « ces créatures ». Puis elle poussait le verrou de sûreté qu'elle avait exigé du patron, passait sa chemise de nuit et décidait « Allô, au lit !» Elle dormait, la fenêtre fermée. Julie, qui étouffait contre le mur, se tournait et se retournait sous ses couvertures. « Qu'est-ce que c'est ?» grognait Delphine. Étendue dans le lit comme dans un cercueil, sa poitrine maigre soulevée par une respiration régulière, elle se rendormait vite, tandis que Julie restait un long moment à lutter contre ses lubies. Les jours passaient, tous pareils. Au premier de l'an, les deux sœurs recevaient des nouvelles de la famille et écrivaient quelques lettres. En juillet, elles s'accordaient une semaine de vacances au pays. Chaque samedi, elles allaient verser leurs économies à la caisse d'épargne, et c'était leur seule sortie ensemble. Au premier froid, Delphine attrapa la grippe et garda le lit. Julie descendit prendre son petit déjeuner en bas dans la boutique. D'une voix mal assurée, elle demandait à le couvreur un café crème qu'elle buvait sans lever la tête. À chaque instant, la porte s'ouvrait sur de nouveaux clients que le patron accueillait avec un mot jovial. Un courant de sympathie existait entre tous ces êtres, et Julie, sans bien s'en rendre compte, souffrait davantage de sa solitude. Louise, qui estimait les deux sœurs, lui disait quelques mots aimables. Elle lui répondait par un sourire. Gauchement accoudée au comptoir, elle regardait son image dans la glace. Son ventre vert vidé, pensive, elle quittait la boutique. Un matin, Marcel s'installa à côté d'elle. C'était un des camionneurs de la Touche, un gars entreprenant, bavard, la poitrine bien moulée dans un jersey de sport. Un jus, patron. Vous avez toujours de jolies filles dans votre tôle, souffla-t-il, en coulant un regard vers sa voisine. Julie devint écarlate. Elle avala de travers son morceau de brioche. Ça passe pas ? Demanda Marcel. Si, si, répondit-elle, les paupières baissées. Elle gardait son mouchoir sur sa bouche pour se donner une contenance. Patron, versez un petit verre à mademoiselle, commanda Marcel. Elle voulut refuser, mais le couvreur avait déjà servi la consommation. Vous êtes trop aimable, monsieur. Elle vida son verre à petite gorgée. L'alcool la rendait plus hardie. Elle dévisagea Marcel. Faut que j'aille atteler, dit-il, lui donnant sans façon la main. Il fit claquer son fouet, et Julie le regarda partir. Elle ne souffla mot de cette rencontre à Delphine. Le lendemain, elle mit son plus beau joli corsage et vite descendit. Marcel était là. Il souleva sa casquette. Les coudes sur la table, frisottant sa moustache, il lui posa des questions. Il semblait à Julie que tout le monde avait les yeux fixés sur elle. À l'atelier, elle ne cessa de penser à Marcel. Ses compliments lui bourdonnaient aux oreilles. Le soir venu, elle regagna lentement l'hôtel, plus que jamais décidée à taire son aventure. Le jour suivant, Marcel n'était pas au comptoir. Elle sortit, inquiète. Il l'attendait devant la porte avec son camion. Il dit « Je vais au hall. Je peux vous conduire un bout de chemin dans ma bagnole. » Elle jeta un coup d'œil vers la boutique. Personne ne la verrait. « Je veux bien. » Il l'aida à grimper sur le siège, lui arrangea une place avec sa couverture, puis les rênes d'une main, le fouet de l'autre. « Hé, Blanchette !» Sur le siège étroit, Julie était serrée contre Marcel. La voiture cahotait. Bon, « faut que je vous tienne, » dit Marcel. Il lui passa un bras autour de la taille et elle le laissa faire. Ils descendirent le boulevard Sébastopol. Le corps rejeté en arrière, les jambes écartées, Marcel pestait contre l'encombrement des rues, jurait et hardiment engageait sa voiture entre les autos. Ben, n'ayez pas peur, mademoiselle Julie, je vous tiens. Il la pressa plus étroitement contre lui. Qu'est-ce qu'il dirait à l'hôtel s'il nous voyait? Elle était rouge, tout se brouillait devant ses yeux. Il lui semblait que les passants l'observaient. Par bonheur, ils prirent des rues désertes. Soudain, la voiture s'arrêta. « Vous êtes à deux pas de votre boîte !» annonça Marcel. Elle le regarda, déçue d'être si vite arrivée. Elle ouvrait la bouche pour remercier son compagnon. Lorsque, brusquement, il se pencha sur elle. « Mon pourboire !» Elle défaillait de bonheur en arrivant à l'atelier. Le baiser de Marcel lui brûlait les lèvres. « il m'aime !» répétait-elle. Quelques jours plus tard, Delphine guérie l'interpella. « T'as l'air tout drôle, toi, depuis un moment. Tu manges plus, tu dors plus, mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Elle fronça les sourcils. « Tu me caches quelque chose. » « Mais non, 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 je t'assure, » répondit Julie. Ils avaient fait une nouvelle balade en voiture et Marcel, plus pressant, lui avait demandé un rendez-vous. Mais comment trouver un prétexte pour sortir seul? Le samedi, en rentrant, elle annonça « Delphine, on veille à l'atelier !» Sa sœur, qui mettait la table, leva la tête. « Tu veilles? Voilà du nouveau !»« Oui, on a reçu une grosse commande. Delphine l'interrompit. Une grosse commande. Puis sortant une photographie de son peignoir. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était une photo de Marcel. T'as fouillé dans mes affaires, cria Julie, et elle se laissa tomber sur une chaise. Oh, tu peux pleurer, ça ne me touche pas, glapit Delphine. Je ne te permettrai pas de faire la vie comme nos voisines, jamais, jamais. Elle reprit haleine et d'une voix sifflante. Moi aussi, dans le temps, moi aussi, j'ai failli céder. C'était avec un employé. J'avais plus de goût que toi. Un soir, nous avions pris rendez-vous. Je l'ai attendu 2 heures. Pour rien. Elle marchait rageusement, les bras battant le vide, la bouche tordue. Tromper ta sœur, mais me quitter pour ce voyou, ingrate. Oh, tu ne sortiras plus d'ici, tu m'entends? Finis l'atelier. Tu vas te mettre à la confection, comme moi, que je ne te reprenne jamais dans la boutique. Et ta photo, tiens! Elle la déchira en petits morceaux. Julie n'écoutait pas, accablée de honte, de désespoir, mais résignée déjà à son destin, la tête dans les épaules, elle sanglotait. Raoul Farge, artiste dramatique, s'arrêta devant le bureau. J'ai du courrier? Non, répondit le couvreur. Soucieux, Farge monta l'escalier. 1 mois qu'on le faisait languir après cet engagement de casino. Suzanne et leur gosse, un jeune prodige de 10 ans, fabriquaient des étiquettes en attendant des jours meilleurs. Rien de neuf? Demanda sa femme. Il secoua la tête et arpenta la chambre. Voyons, ne te décourage pas, fit Suzanne. Avec ton talent, tu finiras bien par trouver un engagement. Le talent! Il ricana. Aujourd'hui, ma petite, les gens s'en foutent du talent. Dis pas ça, Raoul. Tiens, Dupré vient de tourner un film. Oh, le cinéma, jamais! Il haussa les épaules et s'accouda à la fenêtre. Les maisons du quai de Valmy se découpaient sur un ciel orageux. Il faisait une chaleur accablante. Un groupe de badauds contemplait le patron de la chaloupe des singes, qui, perché dans un marronnier, tendait une bande de calicot et des rangées de lampions en travers de la rue. Raoul, dit Suzanne, qui avait suivi son mari à la fenêtre, si tu proposais à ces gens d'organiser leur fête, elle ajouta vivement, tu as déjà été régisseur? Raoul se dérida. Ben, je serais pas embarrassé, certes. Il resta songeur 1 minute. Et même, on pourrait leur jouer un sketch. Mais tu vois bien, et ça permettra de s'arranger avec monsieur le couvreur pour le mois. Raoul ne l'écoutait plus. Suzanne, il tendit les bras, regarde. J'accroche des godets de couleur autour du poste, je pavoise l'écluse, je fais toute une fête vénitienne. Il se frotta les mains. Jamais ils n'auront eu un 14 juillet pareil. Il prit son feutre. Je descends. Sur le pas de la porte, le couvreur suivait des yeux les préparatifs du bal. Bonsoir, patron. Vous venez me payer. Raoul se pencha. Non, je viens vous proposer une affaire. Il avait la parole facile et exposa son plan avec force détail. Le couvreur restait perplexe. Il dit, bon, faut que je demande l'avis de Gustave. Et ils allèrent trouver le patron de la chope des singes. Raoul fit du boniment. Enfin, pour les décider, il déclara, on vous jouera un sketch. Le couvreur arrondit les yeux. Un quoi? Mais Gustave, qui flairait une bonne publicité pour la chope, donna une tape sur l'épaule de Raoul. Allez, ça colle. Les Farges lâchèrent les étiquettes. Raoul épanoui, combinait, discutait, donnait des ordres. Sa femme retapait leur costume de scène. Tous les locataires de l'hôtel l'entouraient et lui demandaient des détails sur sa fête. « Un peu de patience, » disait-il d'un ton protecteur. Le 14, après dîner, une dernière fois Raoul répéta son sketch « Rosalie ». Oh, c'était l'histoire d'une très jeune bonne qui profite d'une réception que vont donner ses maîtres pour exiger de l'augmentation. Le sketch était amusant. Le jeune Farge, en travesti, tenait le rôle de Rosalie. Raoul arpentait la chambre, tandis que Suzanne, avachie sur une chaise, hurlait « Mais, ma fille, c'est du chantage !» Farge comptait sur le patois de Rosalie, qui avait toujours un effet irrésistible. Brusquement, un bruit de fanfare éclata et le jeune Farge courut à la fenêtre. « Papa, la retraite au flambeau !» Tous les gens du quartier étaient dans la rue. Des enfants lançaient des pétards, d'autres brandissaient des lampions. Dominant les cris, on entendait les commandements de Gustave qui cherchait à discipliner la foule. Le cortège s'ébranla, suivit le quai de Jemmapes en braillant la Marseillaise, puis tourna rue Bichat. Les flonflons se perdirent. « Reprenons, » dit Raoul, « tu réponds à ta mère. Maman, j'étais au point disposé à vous servir pour rien. » L'heure de la représentation approchait. La chope des singes illuminée ressemblait à un café-concert. Des banderoles et des guirlandes de fleurs pavoisaient gaiement la salle où avait été élevée une petite scène. Au premier rang des spectateurs se trouvait la mère Foissin, fière de son récent mariage avec la Touche. Mimard, qui enterrait sa vie de garçon, le père Louis, Pélican, la nouvelle bonne de l'Hôtel du Nord, Raymonde, Fernand et leurs amis. Des retardataires se pressaient à la terrasse. Dans le Hourvari, Gustave cria « Les Raouls !» La famille Farge fit son entrée au milieu des applaudissements. Raoul s'inclina. « Une bonne salle » souffla-t-il à sa femme. Il frappa trois coups pour obtenir le silence, se carra dans un fauteuil et la voix bien posée, sûre de ses effets. « Yvonne, tout est-il prêt pour recevoir nos invités ?» Le sketch eut un gros succès. Le jeune Farge, costumé en Rosalie, fit une quête. Un bal clôturait la fête. Six musiciens remplacèrent les Raouls. On débarrassa la table des sièges qui l'encombraient. Deux amoureux commencèrent à tournoyer dans la boutique de Gustave et sur le quai illuminé. Deux vieux ménages se lançaient étourdiment au milieu du tourbillon, tandis qu'à la terrasse de l'Hôtel du Nord, un groupe de braillards marquait la mesure. Après chaque danse, des couples allaient prendre le frais dans l'ombre du square. Des valseurs venaient à leur table et demandaient à boire. Soudain, on entendit une pédarade. En face, sur le pont tournant, Raoul tirait le feu d'artifice. Alternativement, une fusée, un soleil éclaboussaient le ciel. Au bout d'un quart d'heure, il alluma des feux de Bengale. Une lueur d'incendie se refléta dans l'eau sombre, s'étendit, lécha les murs de l'Hôtel du Nord, les terrasses grouillantes de consommateurs. Peu à peu, les couples se firent plus rares. Seuls des danseuses enragées comme Raymonde et Fernande continuaient à tourner. Parfois, le bruit d'un pétard ou une plaisanterie de Raoul ranimait la fête. Enfin, l'orchestre cessa de jouer. C'était fini. Le couvreur souffla. Il était abruti de fatigue, mais content. En avait-il vendu des litres de bière et de limonade? Sur le quai régnait le silence. Le couvreur, dans son bureau, s'attardait seul à faire ses comptes. 596, autant dire 600 francs, de gagner grâce aux farges. Jeanne poussa la porte du réduit triangulaire où les couvreurs logeaient leur bonne, et le masque attentif qu'elle se donnait devant ses patrons tomba. Elle lança son tablier dans un coin, bâilla et s'étendit sur le lit. Elle avait un visage cotonneux et bouffi de jeune campagnarde, de grands yeux vides sous des sourcils clairsemés, des lèvres molles. Elle débordait de santé. Son bras aux lourdes attaches pendait hors du lit. Elle était vêtue d'une jupe trop courte et d'un caraco qui lui donnait une tournure niaise. Elle portait des bas de coton, des pantoufles oranges qui se balançaient à ses pieds. Sous le traversin, elle prit un paquet de cigarettes. Elle apprenait à fumer comme Fernande. Le soir tombait, elle tira quelques bouffées, soupira, fixa des yeux la fenêtre où, comme sur un écran, tournoyaient ses souvenirs. Elle avait quitté l'Alsace pour venir se placer à Paris, chez un pasteur. Ses premières joies datèrent du moment où elle suivit un cours de français. Pour aller à l'école, elle traversait des rues grouillantes. Au passage, les inconnus lui disaient « Bonsoir, belle gosse !» Elle s'arrêtait, musardait et rentrait tard chez son maître, dont les reproches lui bourdonnaient encore aux oreilles. Heureusement, elle avait trouvé une autre place. Depuis 2 mois, elle travaillait à l'Hôtel du Nord. Ses patrons ne lui faisaient jamais de reproches. « Je crois que nous avons déniché l'oiseau rare, » disait Louise. Le 14 juillet, on l'avait laissé libre. « Allez vous amuser, Jeanne !» Réjouissance trop nouvelle, trop proche pour qu'elle les eût oubliées. Elle entendait encore la voix de Gustave. « En avant, la musique !» Aussitôt, un jeune homme l'avait invitée, elle était entrée dans la ronde. À Paris, on ne dansait pas comme chez elle. Les hommes vous écrasaient contre eux, vous frôlaient le visage de leurs lèvres, qui murmuraient des compliments. « Vous êtes belle, on ferait des folies avec vous !» lui soufflait le Chisterino, un colonial en congé de convalescence. Il se penchait sur elle. Jeanne sentait encore la laine de son galant l'effleurer comme un baiser. Elle se tourna sur le lit oppressée. Elle alluma l'électricité, s'empara d'une glace et se regarda mélancoliquement. De vagues désirs la troublaient. Un matin, Cisterino revint à l'improviste dans sa chambre. Jeanne s'y trouvait. « Bonjour, bel enfant !» « Ne vous vois plus depuis quelque temps. » Il avait une voix chaude et mâle qui surprenait les femmes comme une caresse. Jeanne baissa la tête. Une incompréhensible timidité la paralysait. « Vous m'oubliez ? » continua-t-il. Il passa un doigt sur la table. Quelle poussière ! S'il me plaignait à la patronne ! « Oh, monsieur Cisterino, je dis ça pour rire, ma petite. Je veux pas vous faire des ennuis. » Ils étaient l'un près de l'autre. Jeanne admirait l'uniforme de Cisterino, sa prestance, son visage martial, dont l'expression s'alanguissait lorsqu'il posait les yeux sur elle. « Quel grade ? » demanda-t-elle en désignant un galon de laine. « Sergent ! » Et il donna une chiquenaude à sa médaille coloniale. « Je vais vous montrer des photos de mes campagnes, hein ?» Il poussa la porte et prit une cantine qu'il ouvrit toute grande sur le lit. Il fouillait avec nervosité dans un tas de paperasses. Jeanne se penchait sur lui, alléchée. Elle se pencha davantage. « Vous trouvez pas ? » Il se retourna soudainement et la renversa sur le lit. Elle eut un gémissement qui l'étouffa de baisers. Tandis que Jeanne reprenait conscience, il rajusta ses vêtements en sifflotant une sonnerie militaire et vint s'accouder à la fenêtre. Elle ouvrit les yeux. Il revenait vers elle. Elle poussa un cri, sauta du lit et s'enfuit. Elle dégringola l'escalier, traversa la boutique où on l'attendait pour déjeuner et courut se cacher au fond de la cuisine. Louise la rejoignit.
« Madame, madame, Sisterino !»
Louise la prit dans ses bras. « Qu'est-ce qui vous a fait ?»«
Il m'a enfermé dans sa chambre. Oh, mon Dieu !»
Elle se cacha le visage dans les mains.
« Émile !» cria Louise. « Sisterino a abusé de Jeanne. Tu vas le chasser d'ici, tout médaillé qu'il est !»
Elle se pencha sur la bonne.
« Mais fallait nous appeler et crier au secours !»
Jeanne sanglotait et ne répondit rien. Le couvreur, qui était monté en courant à la chambre de Colonial, reparut. « Ne pleurez plus, il s'en va !» Puis après une hésitation, « Faudrait peut-être voir un médecin. »«
Oh, tout de même, exagère pas !» fit Louise.
« Allons, Jeanne, recoiffez-vous et venez manger. » On se mit à table. Louise distraitement caressait Badour. Le couvreur se tournait sur sa chaise et cherchait en vain à rompre le silence, tandis que Jeanne, le regard fixe, le nez sur son assiette, se forçait à manger un peu. Le repas terminé, Jeanne se réfugia à la cuisine où elle resta jusqu'au soir à rouler ses pensées.
« Voyons, faut aller vous coucher, » lui conseilla Louise.
Elle s'essuya les yeux et suivit la patronne dans la boutique. Des jeunes gens mis au courant par le couvreur la reluquèrent.
« Jeanne !» dit une voix. « Le premier qui lui fait des propositions, » cria Louise, « je le fous dehors !»
Elle la prit par le bras. Elles montèrent en silence. Jeanne trébuchait à chaque marche et se laissa traîner jusqu'à sa chambre. Louise ne savait que lui dire. 3 ans d'hôtel l'avaient inclinée à accepter la vie avec résignation.